Olivier, qui vient de demander le baptême, considère à juste titre que le cœur même de l'évangile du Christ, c'est cette parole de Jésus qui concerne l'amour des ennemis. Alors effectivement, il y a bien des choses dans la Bible, ce n'est pas un livre au singulier, mais c'est toute une bibliothèque qui se prête à bien des interprétations possibles. Tout dépend en réalité du verset que l'on choisit comme point central de notre lecture, de notre théologie, et autour duquel va s'articuler notre interprétation de tous les autres versets de la Bible. Alors je vous propose d'entendre dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les versets 38 à 48, où Jésus nous propose de relire l'Écriture à la lumière de cet amour des ennemis. Vous avez entendu, nous dit Jésus, qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères et sœurs, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors maintenant, je voudrais vous lire dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 12, un passage où Paul reprend cette exhortation de Jésus en, je dirais avec ses mots, en la développant un petit peu. Donc c'est dans le chapitre 12 de la lettre aux Romains, à partir du verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose, pour commencer à laisser résonner ces paroles dans nos cœurs, le psaume 89 dans le psautier français, « Je louerai ton amour et ta fidélité », les trois premières strophes de ce psaume 89. Et si je puis me permettre, je propose à l'organiste de le jouer avec un tempo un peu rapide, car nous sommes habitués à chanter les psaumes un peu vite. Mais je donne l'occasion de souhaiter la bienvenue à Pierre Farago, qui a accepté de venir nous dépanner, particulièrement en ce temps où Marie-Louise Giraud est en maison de repos. Donc un grand merci à Pierre Farago, notre organiste d'aujourd'hui et de dimanche prochain. Psaume 89. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence, les uns avec les autres, pour nous révéler ton amour et nous unir à ta vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre mais aussi la recevoir, non seulement la connaître mais aussi l'aimer, non seulement l'apprécier, mais la mettre en pratique. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Si l'on prend cette parole de Jésus sur l'amour des ennemis comme base de notre pensée, c'est toute notre lecture de la Bible qui sera orientée par une conception de Dieu comme aimant chacun, envers et contre tout. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. Il n'y a pas dans cette idée qu'une révolution dans la pensée abstraite concernant Dieu ou concernant la justice, mais il y a quelque chose que Jésus a vécu. Et donc ce n'est pas seulement une belle parole qui permet de fonder une nouvelle lecture de la Bible ou une théologie de l'amour infini de Dieu, ce qui nous fait très plaisir, bien entendu. Mais c'est une parole qui, j'allais dire malheureusement, est faite pour être prise au sérieux, également dans notre façon de vivre concrètement, dans notre rapport aux autres. Et cela, c'est plus délicat. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Cela peut sembler totalement déconnecté de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et pourtant, ce n'est pas si irréaliste que cela. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, avant d'avoir expérimenté un tant soit peu la puissance surprenante de cette façon d'être. J'en appelle à un témoin célèbre que l'on ne peut pas suspecter de manquer de pragmatisme, Napoléon Bonaparte, qui nous a d'ailleurs donné cet édifice, merci à lui au passage. Dans un texte où il fait le bilan de son existence, il semble avoir un amer regret de ne pas avoir reconnu plus tôt la prodigieuse efficacité de la logique d'amour que nous propose Jésus-Christ. Avant même que je sois mort, écrit Napoléon à Sainte-Hélène, mon œuvre est détruite. Tandis que le Christ, mort depuis 18 siècles, est aussi vivant qu'au moment de son ministère. En quelque endroit du monde que vous alliez, vous trouverez Jésus prêché, aimé, adoré même. Je suis encore vivant et pourtant mes armées m'ont oublié. Alexandre, César, Charlemagne, moi-même, avons fondé des empires. Mais sur quoi avons-nous fait reposer notre pouvoir ? Sur la force, sur la guerre. Tandis que Jésus-Christ a fondé son empire sur l'amour, et des milliers d'hommes donneraient joyeusement, à cette heure même, leur vie pour lui. L'union qui unit Jésus-Christ à ses rachetés est plus sacrée, plus impérieuse que quelque union que ce soit. Tous ceux qui croient sérieusement en lui ressentent cet amour surnaturel. Ils aiment quelqu'un qu'ils n'ont pas vu. C'est un fait inexplicable à la raison, impossible aux forces de l'homme, et pourtant, il a été accompli. Voilà ce que j'admire au-dessus de toute chose, moi, Napoléon, plus j'y pense et plus je suis absolument persuadé de la divinité du Christ. Alors ce passage du mémorial de Sainte-Hélène est plein de regrets, plein d'amers regrets, car cette prise de conscience vient après la bataille, c'est le cas de le dire. Napoléon ne semble pas regretter les morts que ces guerres ont causées, mais c'est en stratège pragmatique qu'il parle. Quel dommage de ne pas avoir connu plus tôt la puissance créatrice de l'amour qui est manifestée en Jésus-Christ. De l'amour au sens où l'entend Jésus-Christ dans le passage que nous avons entendu. Il y a, nous dit Napoléon, quelque chose de surnaturel dans cet amour, au point que cela ne peut venir que de Dieu lui-même, du Créateur de l'univers. Il y a quelque chose aussi de surnaturel dans le fait d'arriver à aimer un tant soit peu son ennemi, celui que nous avons aucune raison d'aimer, celui qui nous a trahis, celui qui nous a fait du mal, ou celui qui a fait du mal à celui que l'on aime. Oui, il y a quelque chose de surnaturel dans l'amour des ennemis. Il y a quelque chose de divin dans l'existence de cet amour et dans sa puissance créatrice. Et donc c'est à juste titre que Wilfred Monod a appelé son œuvre monumentale « le problème du bien » et non « le problème du mal ». En effet, le bien et le mal ne sont pas deux choses symétriques. Par exemple, une stupide balle de fusil peut tuer quelqu'un en quelques fractions de seconde, alors qu'il avait fallu des années d'efforts, de soins, de tendresse pour que cette personne puisse devenir ce qu'elle était. L'existence du mal est donc très facile à comprendre, mais c'est l'existence du bien qui est en réalité un miracle incroyable. Le bien est un miracle. Comment peut-il exister face à la simplicité du mal ? Il y a là quelque chose de surnaturel, de divin. L'idée même de pouvoir aimer celui qui nous fait souffrir est également surnaturelle. La réaction de tout être vivant, normalement constitué, en contact avec une source de mal, est de ne pas l'aimer, mais plutôt de la fuir ou de la combattre. Quand nous nous piquons le doigt, nous retirons la main en disant « aïe », et tout aussi naturellement, quand quelqu'un nous fait subir quelque chose de pénible, d'injuste ou de mauvais, nous sommes plus ou moins pris par un sentiment de colère, de rejet, et le désir que le coupable soit éliminé ou au moins qu'il puisse souffrir à son tour pour payer la faute qu'il a commise. Aimez vos ennemis. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce message de Jésus ne va pas dans le sens de notre penchant naturel. Mais heureusement, Jésus ajoute aussitôt « C'est ainsi que vous serez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, qui, lui, agit comme cela en aimant ses ennemis, en aimant le bon comme le méchant, le juste comme l'injuste », nous dit Jésus. Et cela nous donne la clé de cette prodigieuse façon d'être que nous propose Jésus, clé que relève d'ailleurs Napoléon dans son mémorial. Nous ne pouvons arriver à cela, à l'amour des ennemis, que dans la mesure où nous sommes engendrés par Dieu. L'évangile de Jésus-Christ n'est donc pas fait de bons petits conseils comme « mangez 5 fruits et légumes par jour et vous serez en bonne santé ». Heureusement. Heureusement parce que même cela, nous avons bien du mal à le faire. Alors pensez, pour ce qui est d'aimer nos ennemis, le conseil serait bien délicat. Mais finalement, les choses s'annoncent pour nous bien plus faciles qu'elles ne semblent à première vue. Une seule chose, finalement assez simple, est la clé de tout. Il suffit de se confier à Dieu. C'est lui qui engendrera en nous cette capacité incroyablement créatrice qui consiste à pouvoir aimer même nos ennemis et peut-être aussi à aimer un peu véritablement nos amis du même coup. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul applique ce principe de l'amour des ennemis et particulièrement ce principe qui est à la clé de l'amour des ennemis, l'élan de confiance en Dieu pour nous libérer de la colère et du désir de faire payer le coupable pour la souffrance qu'il nous a faite. La première chose, nous dit l'apôtre Paul, c'est « ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés ». Mais laissez place à la colère de Dieu, car il est écrit « À moi de faire la justice, à moi de payer en retour, dit le Seigneur. » En remettant ainsi les choses à Dieu, nous pouvons laisser de côté notre propre colère et ce désir que le coupable paye pour la souffrance qu'il nous a faite. Nous pouvons alors décharger nos épaules de cette colère qui est encore du mal, de cette colère qui est un mal actif en nous et sur notre entourage, et qui est donc un mal supplémentaire s'ajoutant encore au mal qui a été commis dans le passé. Alors oui, faisons confiance à Dieu, à lui de faire la justice, à lui de faire payer la note au coupable, À lui la colère, nous dit l'apôtre Paul. Car en Dieu, même la rétribution, même la vengeance et la colère sont encore du bien, sont encore de l'amour, puisqu'il est le bien, l'amour et la vie. Puisqu'il est le seul à véritablement aimer, bénir et faire du bien, même à ses ennemis, même aux méchants. Et cette colère n'est pas contre le méchant, bien sûr. Dans ce contexte, on ne peut pas comprendre cela ainsi. Mais cette colère, elle est contre le mal. Elle est contre ce mal qui nous mène par le bout du nez quand nous sommes en colère. Ce mal que nous nous faisons, et ce mal qui nous fait souffrir, d'où qu'il vienne. En remettant entre les mains de Dieu le mal qui a été fait, nous pouvons être libérés d'un grand mal et engendrés comme source du bien. Il y a dans cette confiance en Dieu quelque chose qui, personnellement, m'aide beaucoup dans la vie quotidienne. Même pour une petite chose impardonnable, comme quand une voiture nous roule sur les pieds alors que nous sommes en train de traverser sur le passage clouté. Eh bien, nous pouvons remettre à Dieu le mal que nous avons subi. Et le mal que nous avons fait aussi, nous pouvons le remettre à Dieu. Dieu nous décharge de cette maladie mortelle qu'est la logique de rétribution, qu'est cette source de vengeance, mais aussi cette source de remords quand c'est nous qui avons été source de mal. Et dans les deux cas, cette logique de la rétribution, cette logique de la vengeance est une source mortelle. Il nous libère pour l'action positive, pour reconstruire quand c'est possible, pour soigner, pour ressusciter un peu, pour pardonner et pour espérer ensemble. Oui, nous pouvons alors aborder la suite de ce que Jésus nous propose, libérés de cette colère, de ce désir de vengeance. Nous pouvons alors aimer notre prochain, l'aimer même s'il a été notre ennemi, et même si nous avons été son ennemi, celui qui lui fait du mal. Jésus ne nous propose pas de transformer notre ennemi en ami. Il n'est pas question de cela, bien entendu, et heureusement, car l'amitié est quelque chose de trop rare et de trop précieux pour être généralisé à l'ensemble des personnes que nous rencontrons. Mais ce que Jésus nous propose, c'est une démarche concrète et positive, qui consiste en trois choses: bénir, faire du bien et prier pour ceux qui nous font du mal. Mais aussi bénir, faire du bien et prier pour ceux à qui nous avons fait du mal. Et oui, oui, c'est possible, grâce à Dieu, de bénir celui qu'on n'aime pas, au sens courant du terme, à celui qui n'est pas notre ami, pour qui nous n'avons aucune sympathie. On peut le reconnaître comme étant un enfant que Dieu, lui, aime. Et avec l'aide de Dieu, nous pouvons reconnaître le bien qui existe quand même dans cette personne. Et même si ce n'est pas facile, compte tenu de ce qui a eu lieu dans le passé, même si ce n'est pas toujours bien reçu, on peut lui dire le bien que l'on pense de lui et chercher à lui faire du bien d'une façon ou d'une autre. Et il est enfin possible de prier pour lui, nous dit Jésus. Mais je crois que ça doit être en dernier lieu, après avoir essayé la parole qui bénit et après avoir essayé le geste qui espère faire du bien à l'autre. L'apôtre Paul va dans le même sens quand il nous propose « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » S'il a soif, donne-lui à boire. Autrement dit, Paul nous propose de vaincre la méchanceté en faisant du bien aux méchants. Et pour cela, il est nécessaire de mieux le connaître, bien sûr, de voir ce qui manque aux méchants, ce qui lui manque afin que le bien qui est en lui soit augmenté, soit nourri, soit abreuvé et s'exprime enfin de façon positive, plutôt qu'en blessant et en tuant. Eh bien, c'est ainsi que Dieu agit en Christ, en nous donnant le pain de sa parole et en nous donnant l'eau vive de sa bénédiction. Et grâce à ce pain, grâce à cette eau, oui, nous pouvons vivre en aimant un peu plus notre prochain comme nous-mêmes. En faisant du bien à ton ennemi, nous dit l'apôtre Paul, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Alors en première lecture, il y a là quelque chose de terrible et c'est une bonne occasion d'exercer notre capacité à relire ces textes de la Bible en cohérence avec ce principe fondamental que nous avons choisi, qu'est l'irréductible amour de Dieu pour chacun. Alors c'est facile, car dans la Bible, les chardons ardents n'évoquent pas la malédiction de Dieu, qui n'existe pas, nous le savons, mais son action purificatrice. En effet, on soignait autrefois les plaies infectées en les cautérisant avec une braise. Et donc Paul ne nous propose donc pas de nous venger ainsi, d'une façon détournée de celui qui nous a fait du mal, en laissant Dieu punir le coupable, mais au contraire de s'en remettre à l'amour de Dieu pour qu'il soigne et qu'il sauve celui qui est blessé, celui dont la plaie est menace de gangrène, de mort, pour lui d'abord et pour son entourage. Car toujours Dieu, c'est par le bien qu'il surmonte le mal. Ayons donc confiance en lui, confiance dans l'avenir. Amen.